following is a previously broadcast program.
Bonjour, bienvenue à l'émission Point de vue, ici Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire, le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse tente de se refaire une beauté et de se trouver un nouveau chef pour commencer. Zach Churchill croit être l'heureux élu.
Alors, on a besoin des organisations dans toutes nos communautés, mais on a aussi besoin les meilleures idées pour adresser les problèmes qu'on a ici en Nouvelle-Écosse.
Le Centre national des arts d'Ottawa accueille une nouvelle œuvre en reconnaissance du territoire algonquin sur lequel elle reçoit les visiteurs du monde entier chaque année. L'œuvre d'Émilie Brascoupe-Offler et son rythme de la terre-mer a été dévoilée il y a quelques jours.
Le CNA cherchait une œuvre d'art qui pourrait accueillir des visiteurs dans l'espace du CNA, en quelque sorte au nom de la nation algonquine. Et je pense que ce qui m'a inspirée, c'est d'intégrer les enseignements communautaires l'histoire de la communauté.
Du 28 au 31 juillet, le site historique de Grand-Pré accueillera les Journées acadiennes qui mettent à l'honneur la culture et l'héritage acadien.
Pour les Acadiens, c'est vraiment un lieu de mémoire avec cette merveilleuse petite église souvenir qui, cette année, célèbre son 100e anniversaire.
Et une nouvelle entreprise vous fait des yeux doux en prenant des photos de votre iris et vous l'affiche où vous voudrez bien.
Ça prend environ 1 ou 2 minutes de prendre le portrait des deux yeux et puis on vous montre ça sur l'écran.
Bienvenue à Point de vue.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse tente de reconquérir son électorat depuis sa défaite aux élections provinciales de l'été dernier. Le parti qui doit se choisir un nouveau chef, le candidat Zach Churchill est confiant d'être l'homme de la situation. Il espère être celui qui va prononcer son discours d'investiture le 9 juillet prochain. Zach Churchill est un vieux routier, lui qui a survécu non seulement aux dernières élections, mais aussi à celles qui se sont tenues en 2010, 2013 et 2017. Monsieur Churchill a, au long de sa carrière politique, aussi occupé des postes ministériels dans les domaines de l'éducation, de la santé, du bien-être, des ressources naturelles, des communications et des affaires municipales. Il est l'actuel député de la circonscription de Yarmouth à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. Ce politicien qui n'a que 37 ans espère avoir en main tout ce qu'il lui faut pour rebâtir le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse et regagner la confiance des membres de son parti. Selon lui, il faut revenir à l'essentiel et engager les membres de manière concrète. Notre journaliste Daniel Aucoin est en compagnie de Zach Churchill, qui, vous l'entendrez, parle un bon franglais.
Zach Churchill, candidat à la course pour devenir chef du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Chéticamp.
Merci. C'est bon pour être ici encore.
Alors, parle-nous un peu de la campagne. Ça va bien jusqu'à date?
Oui, c'est très positif. Je parlais avec beaucoup de libéraux, tout part de la province, et nous sommes excitants pour la prochaine campagne après celui-ci.
Qu'est-ce que vous proposez pour rebâtir le Parti libéral en Nouvelle-Écosse? On sait que la dernière élection en Nouvelle-Écosse, ça a été très difficile pour le Parti libéral, ça a été décevant. Qu'est-ce que vous proposez pour rebâtir le parti?
Well, l'organisation est très importante dans les politiques. Alors, on a besoin des organisations dans toutes nos communautés. Mais on a aussi besoin les meilleures idées pour adresser les problèmes qu'on a ici en Nouvelle-Écosse, comme l'accès à primary health care, la situation avec housing shortage qu'on a ici. We also have a labor shortage in Nova Scotia. On a besoin de succès, on a besoin d'avoir les idées, les solutions pour ces problèmes-là.
Alors, vous avez comme ça rencontré beaucoup de gens à travers la province au cours des derniers mois. Qu'est-ce que les gens vous disent? C'est quoi les préoccupations des gens? Qu'est-ce que...
Oh, c'est healthcare, l'accès à les physiciens, the cost of living, gas. Si les personnes whether folks are in a small business, a restaurant or fish plant, n'y a pas de personne qui veut travailler maintenant. Alors, ça, c'est les problèmes qui, je pense, préoccupent les personnes ici à Nouvelle-Écosse maintenant. Et pas seulement Nouvelle-Écosse, mais Nouvelle-Écosse et Canada et même les États-Unis et en Europe. Et beaucoup de les mêmes problèmes maintenant.
On sait que vous êtes le député pour Yarmouth. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'industrie touristique en Nouvelle-Écosse cet été?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas travailler à voyager pour les dernières deux années. Alors maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans les États-Unis qui veulent voyager et ça va prendre du temps, je pense. Mais beaucoup de personnes sont excitées maintenant pour voyager partout.
Est-ce que vous êtes préoccupé par le prix de l'essence, par le prix de la gasoline?
Oui, c'est un gros problème maintenant. C'est probablement pour cette campagne mon plus grand expense aussi, c'est l'essence pour le véhicule. Et ça, c'est un gros problème maintenant avec les folks ici à Nouvelle-Écosse. Et les solutions n'est pas facile avec cet issue-là. Les personnes disent qu'on a besoin de remover le taxe sur l'essence, mais là, il n'y a pas d'argent pour les roads. Mm-hmm. Mais on a besoin de penser comment tu adresses cet issue-là. Et je pense peut-être qu'on a besoin de garder les producteurs, les personnes maintenant qui font beaucoup d'argent. Et peut-être il y a les options là pour garder la taxe, plus de taxes. Les gros producteurs là.
Parce que
c'est un problème pour les small gas stations as well en Nouvelle-Écosse. A lot of challenges for them as well as the consumer.
On sait que les deux dernières années, ça a été difficile pour les petites entreprises en Nouvelle-Écosse. Comment vous proposez de relancer l'économie dans les communautés rurales comme au Cap-Breton?
Well, tourism, c'est important pour ça. Mais aussi, on a la population est en train de population's growing right now too in rural Nova Scotia. C'est excitant. Alors, on a cette trend of people working outside of offices and outside of cities, and we've had a lot of people move to Nova Scotia as a result of that. And so, I think we have to make sure we have the services in place with healthcare, education, internet, roads. Et là, plus de personnes, je pense, vont venir ici.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Les vacances d'été approchent à grands pas et pour ceux et celles qui doivent encore décider de leur itinéraire fin juillet, surtout dans l'est du pays, notre journaliste Sébastien Beltran a une piste à vous proposer. Il nous parle des journées acadiennes et des célébrations qui vont se tenir au site historique de Grand-Pré dès le 28 juillet et pour 4 jours. 4 jours de commémoration, de conférences et de concerts qui se succéderont pour faire vivre en quelque sorte l'histoire méconnue de ce peuple et contribuer à la transmission de sa culture aux générations futures. Ces journées marquent d'ailleurs cette année le centenaire de la construction de l'église souvenir de Grand-Pré. Grand-Pré est devenu un lieu historique national qui célèbre l'âme et l'esprit des Acadiens. Le site est aussi, depuis 2012, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sébastien Beltran est à Halifax en compagnie de Claude Boudreau, directeur général de la Société de promotion Grand-Pré.
Bonjour Claude.
Bonjour, ça va bien?
Écoute, je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et donc, après avoir fait la promotion de l'événement auprès de mon confrère de Chétican, j'aimerais maintenant que l'on partage l'événement auprès de la communauté aligonienne. Alors, en introduction, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Acadie, peux-tu nous faire en quelques mots un rappel historique sur Grand-Pré? En quoi est-ce un lieu majeur pour la communauté acadienne?
Oui, certainement. D'ailleurs, on est tout près d'Halifax. Hein? On est à moins d'une heure de route. Puis Grand-Pré, c'est un lieu magique. C'est un peu un lieu de commémoration et de célébration pendant l'été. Mais la raison de Grand-Pré est tellement importante, c'est qu'à un moment donné, ça a mobilisé la communauté acadienne. Bon, c'est certain que Grand-Pré était un des villages plus prospères avant la déportation de 1755, Mais après, avec le poème de Longfellow, c'est devenu un site très prisé pour les touristes américains aussi. Et vraiment, c'est à partir de Grand Prix que l'industrie touristique de la Nouvelle-Écosse s'est même développée avec le chemin de fer qui amenait les touristes américains. Mais pour les Acadiens, c'est vraiment un lieu de mémoire avec cette merveilleuse petite église souvenir qui, cette année, célèbre son 100e anniversaire. Et l'église a été construite grâce à des dons d'Acadiens et d'Acadiennes partout en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et dans la diaspora acadienne. Il y avait une première grosse levée de fonds, il y a 100 ans de ça, où chaque Acadien et chaque Acadienne dans les petites paroisses ramassait de l'argent, des collectes de 5 sous, 10 sous, et on a même un répertoire de ces dons-là qui va être exposé pendant les journées acadiennes. Donc, c'est vraiment un lieu très important pour les Acadiens, tant pour sa signification historique, mais aussi pour commémorer nos ancêtres puis célébrer que le peuple acadien est toujours existant aujourd'hui.
Comme tu viens de le rappeler, Grand Pré est le cœur battant de la communauté acadienne. C'est la raison pour laquelle les festivités que vous organisez du 28 au 31 juillet revêtent un caractère si particulier. Alors, peux-tu nous parler de ce qui s'en vient et quels sont les événements majeurs qui ponctueront les 4 jours de fête?
Oui, définitivement. Donc, c'est 4 jours de fête. C'est du 28 au 31 juillet. La première journée, le 28 juillet, c'est une commémoration, parce que le 28 juillet, c'est la journée de la commémoration du Grand Dérangement. Alors, c'est un petit peu plus solennel, puis on a un petit circuit de commémoration, et cette année, on a une thématique, on commémore les femmes pionnières de la déportation. Donc, les personnes vont avoir la chance de rencontrer 3 femmes pionnières, soit Marie Leblanc, Marie-Joseph Robichaud, puis Marguerite News d'Entremont. Alors ça, c'est le 28. La deuxième journée, le 29, là, on a l'honneur et la chance d'avoir le grand Zachary Richard, ce chanteur cajun de la Louisiane, avec son seul spectacle en Nouvelle-Écosse cet été. Et c'est aussi un spécial parce que Zachary célèbre ses 50 ans de carrière. Donc, tout un spectacle. Et c'est la première fois qu'il va chanter à Grand Prix sous un grand chapiteau. Donc, on est très, très, très excités. Ensuite, le samedi, c'est la plus grande journée de la fin de semaine de 4 jours. Là, on va avoir poésie, musique, ateliers et conférences. Puis, le dimanche, le 31, on aura encore quelques spectacles.
Quelle était l'intention lorsque vous avez pensé la programmation? Est-ce qu'il y a une raison d'avoir mélangé culture, émotion, pédagogie?
Oui, tout à fait. C'est un équilibre qu'on vise toujours parce qu'il ne faut pas oublier que le Grand Prix, c'est un lieu historique national. Alors, on ne peut pas parler de Grand Prix sans faire un petit peu d'éducation, sans parler de l'histoire de Grand Prix. Et étant donné que c'est le 100e de l'Église Souvenir, on va avoir une causerie spéciale qui va être en français le samedi et en anglais le dimanche. Sur justement comment les Acadiens ont construit cette chapelle souvenir, comme tout le processus, comment ça s'est fait. Et on a la chance d'avoir 3 personnes expertes sur le sujet, dont Sally Ross, Claude Degrasse, puis Suzanne Surette Draper. Alors ça, c'est le volet plus académique de l'événement, mais la musique et la poésie, naturellement, jouent un grand rôle. Et l'année dernière, on a perdu un grand poète acadien du nom de Raymond Guy Leblanc. Et Raymond Guy était un des premiers poètes acadiens à publier la poésie. Et il a écrit un très beau poème qui s'appelle « Rassembler les poètes à Grand Prix ». Alors, de ce poème-là, l'idée est venue de lui rendre hommage cet été pendant les journées acadiennes. Et donc, on va avoir plusieurs poètes qui vont venir lire de la poésie à Raymond Guy, dont Herménégilde Chiasson, on va avoir Marc Arsenault, André Muse, et aussi La Relève avec Mélodie Jacob-Parat. Donc, un mix de poètes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse pour cet événement-là. Puis, naturellement, ben, on ne peut pas avoir des festivités acadiennes sans musique. Donc, en plus de Zachary de la Louisiane, on va avoir Ronald Bourgeois, de Chéticamp, vous le connaissez bien en Nouvelle-Écosse.
Absolument.
On a aussi de la représentation de l'île du Prince-Édouard avec Lenny Galland et Patricia Richard, leur fameux duo Sirène et Matelot. Mais un événement qui va être aussi très, très couru, c'est le samedi après-midi, après Ronald Bourgeois, on a un événement qu'on a appelé les violons d'Acadie. Et ça, c'est six violonistes des provinces, des quatre coins de l'Acadie, et ils vont faire une démonstration des différents styles de musique de violon, suivi d'un jam collectif, où là, on va inviter même n'importe qui joue de la musique, si vous voulez amener votre guitare, votre violon, à se joindre aux six violonistes, puis on va faire un vrai jam, un vrai party de cuisine sous la tente.
Excellent, excellent. Donc, comme tu le disais il y a quelques minutes, c'est aussi l'occasion de célébrer un double anniversaire, le centenaire de l'Église du Souvenir, les 10 ans de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, contrairement à d'autres événements, à Grand Prix, il ne s'agit pas uniquement de fêtes, mais aussi c'est un lieu de commémoration et de transmission entre les générations. Donc, quels sont les enseignements et les émotions qu'éprouvent les visiteurs en se rendant à Grand Pré?
Il y en a tellement, mais alors, lorsqu'on parle justement du 10e anniversaire de l'UNESCO, cette célébration-là va avoir lieu un petit peu plus tôt. C'est plus concentré autour du 30 juin et du 1er juillet, en même temps que la fête du Canada. Mais les enseignements qu'on veut faire, c'est de démontrer la résilience du peuple acadien, mais aussi la bonne entente qui est venue par la suite avec la communauté anglophone maintenant, mais aussi historiquement avec nos amis Mi'kmaq. Donc, dans les temps qui courent, avec tous les problèmes qui se passent sur la planète, lorsqu'on regarde l'histoire du peuple acadien, on voit quand même que malgré des grands défis, des grands obstacles, on a réussi quand même à rebâtir et avoir une certaine joie de vivre quand même. Donc, il y a ça qui est important, mais il y a toute la nature aussi, le respect de la nature, la force de la nature, lorsqu'on regarde les aboiteaux, les marais, l'agriculture à Grand Pré. Donc, on vient vraiment toucher à beaucoup de choses à Grand Pré, et à ça s'ajoute naturellement aussi tout ce qui est de la culture acadienne.
Juste avant de conclure, Claude, je sais, parce qu'on en a parlé avant le début de l'enregistrement, que vous avez programmé tout au long de l'été plusieurs activités. Donc, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus et vous rencontrer tout au long de l'été, qu'est-ce que vous avez prévu au cours de ces deux mois, juillet et août?
Bon, en plus des célébrations qu'on vient de discuter, bientôt, dans quelques semaines, le 12 juillet, juste avant la fête nationale de la France, qui est le 14 juillet, on va avoir une petite cérémonie d'amitié France-Acadie où le consul général de France va venir à Grand Pré et on va planter un chêne de l'amitié. Ça, c'est le 12 juillet en avant-midi. Puis aussi, un autre événement qui est toujours plaisant, c'est le 15 août, naturellement, la fête nationale des Acadiens. Alors, on va avoir un petit tintamarre avec la musique aussi le 15 août. Puis, il y aura d'autres activités qui vont s'ajouter pendant l'été, mais la meilleure façon, c'est vraiment de nous suivre sur Facebook ou notre site web visitergrandpré.ca.
Merci, Claude Boudreau, pour ces quelques moments passés ensemble. Je rappelle que vous êtes directeur général de Société Promotion Grand Pré.
Oui, merci beaucoup. Puis juste en terminant, c'est un travail d'équipe. Hein? On n'est pas les seuls là-dedans. On a aussi la Corporation du paysage de Grand Pré. On a l'Assomption Vie, la province du Canada, la province de la Nouvelle-Écosse et le Canada qui nous aident beaucoup. Donc, faut vraiment les souligner parce que sans tous ces partenaires, ce ne serait pas possible. Donc, merci encore une fois.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
Le Centre national des arts d'Ottawa accueille une nouvelle œuvre des peuples des Premières Nations et cette fois en reconnaissance du territoire algonquin. L'œuvre « Rythme de la terre-mère » a été dévoilée il y a quelques jours. Le tableau « Rythme de la terre-mère » a été réalisé par l'artiste ottavienne algonquine Émilie Brascoupe-Hoffler. Elle a été exposée dans le foyer du canal, un des espaces les plus en vue du CNA. Des centaines de milliers de personnes y circulent chaque année. L'œuvre d'Émilie Brasco-Poffler a été sélectionnée à la suite d'un appel à projet placé auprès d'artistes de 11 communautés algonquines du Canada. Le Centre national des arts appartient non seulement aux artistes du Canada, mais aussi aux artistes autochtones. Vous êtes ici chez vous, a déclaré Christopher Deacon, président et chef de la direction du CNA. Yasmina Dagri est en compagnie de l'artiste Émilie Brasco-Poffler.
Alors Émilie, vous qui êtes d'origine algonquine, pourquoi est-ce que c'est important de partager les valeurs et l'histoire autochtone aux différentes communautés canadiennes?
Je pense que ce qui est important à propos du partage de la culture et des valeurs, c'est que c'est un excellent moyen de trouver des points communs entre nos communautés et de fournir un contexte culturel au sujet de la culture algonquine dont les gens n'ont peut-être pas entendu parler auparavant et qu'ils ne connaissent pas.
Parlons de la nouvelle œuvre qui a récemment été publique au Centre national des arts, qui a été nommée Rythme de la terre-mère. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer cette œuvre puisque vous êtes la personne qui avait fait en fait cette œuvre? Qu'est-ce qui vous a inspiré à la créer?
Donc, le CNA, qui était un appel de proposition, cherchait une œuvre d'art qui pourrait accueillir des visiteurs dans l'espace du CNA, en quelque sorte au nom de la nation algonquine. Et je pense que ce qui m'a inspiré, c'est d'intégrer les enseignements communautaires, l'histoire de la communauté. Et en quelque sorte, j'ai installé le CNA dans la région d'Ottawa, puis j'ai partagé des histoires familiales, personnelles qui continuent d'inspirer mon travail.
Qu'est-ce que cette marque d'hommage et de respect affichée en permanence au CNA, au Centre national des arts, représente et évoque pour vous?
Je pense que ce qui a été vraiment excitant au sujet de ce qui s'est passé au CNA, l'ouverture du théâtre autochtone, une sorte d'inclusion de la communauté algonquine, y compris un accueil et une reconnaissance du fait que nous sommes en territoire algonquin non cédé. Et j'ai l'impression que cette œuvre d'art et d'autres œuvres d'art qui seront dévoilées au CNA continueront d'accueillir les peuples autochtones, tous les peuples, dans l'espace et de créer un espace pour que nous soyons vus, que nous sentions inclus et que nous nous voyons représentés dans cet espace.
Et bien pour finir, comment pouvons-nous promouvoir la culture et les artistes algonquins dans notre communauté?
Je pense que c'est vraiment important de toujours apprendre. C'est quelque chose que j'ai entrepris, récupérer les pratiques traditionnelles perdues, créer de nouvelles traditions au sein de ma famille. Et j'espère juste que c'est intéressant pour moi et ma famille, mais j'ai l'impression que ça intéresse tout le monde. Je suis toujours excitée d'apprendre d'autres cultures et d'autres traditions, et j'espère que cela ne fera qu'encourager l'apprentissage pour tout le monde et ouvrir des portes pour que les gens apprennent et s'engagent dans toutes les cultures différentes, pas seulement les traditions algonquines, mais d'autres groupes autochtones et d'autres communautés à Ottawa.
Eh bien, merci Émilie d'avoir accepté notre entrevue. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et bien, nous, on vous souhaite le meilleur dans le futur.
Merci beaucoup.
L'expression « se regarder dans le blanc des yeux » n'aura plus jamais le même sens. Une entreprise allemande et sa première franchise canadienne se proposent de vous faire de l'œil en prenant une photo de votre iris, puis d'en faire ce que vous voulez, que ce soit une photo grand format ou un fond d'écran d'ordinateur. L'entreprise albertaine iMazy, vous comprenez l'allusion à iMazing, a maintenant une adresse physique sur l'avenue White à Edmonton. Elle, qui était jadis une entreprise mobile qui se déplaçait de festival en festival, Rick Maisonneuve et son épouse ont eu l'idée de monter cette nouvelle entreprise. Monsieur Maisonneuve est en compagnie de notre journaliste Vincent Savard.
C'est ma femme qui a découvert ça Allemagne, c'était à Dresden durant un voyage en 2018. Et puis, c'était pas une franchise encore. Ça fait qu'on a été la première franchise de iMazy au monde. Ça s'est passé juillet de 2019, juste pré-COVID. On a ouvert, comme tu dis, une station mobile où on se promenait de festival à festival, et puis juste pour introduire le service. Ça a duré probablement 7 mois, et puis on s'est fait fermer à cause de COVID. On était une entreprise événement, et puis ça a été fermé pendant 14 mois. Ça fait qu'à ce moment-là, en 2021, on a ouvert un pop-up sur White Ave comme test pour voir comment ça fonctionnerait. Et puis, on a eu très bons résultats. Et puis, on s'est retrouvés maintenant dans notre nouveau magasin studio permanent au 10820 White House, ici à Edmonton. Ça fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend votre portrait quand vous rentrez. C'est pas mal vite. Ça prend environ 1 ou 2 minutes de prendre le portrait des deux yeux. Et puis, on vous montre ça sur l'écran. On magnifie 200 fois quand on prend votre portrait de vos yeux. Les gens qui ont les yeux bruns, ils n'ont aucune idée de ce que ça pourrait avoir de l'air. C'est vraiment, c'est sublime quand on voit qu'est-ce que notre œil a de l'air. Quand on fait la magnification, et puis on voit tous les détails, les couleurs, les structures qui sont dans les yeux, c'est imperceptible. On ne peut pas voir ça avec juste avec nos yeux. Il faut se servir de la technologie pour magnifier 200 fois pour voir ça. Ça fait que la première étape, c'est de prendre le portrait. On vous montre le portrait sur l'écran. Ça va prendre environ 5 à 10 minutes par œil que vous voulez imprimer. Et puis, on enlève tous les réflexions de lumière. Ça vous laisse avec une image qui est aussi proche de naturel qu'on peut faire. On ne joue pas avec les couleurs. C'est juste une optimisation de l'image aussi vite qu'on peut. Et puis, avec le système qu'on se sert, vraiment, ça devrait prendre 1 ou 2 heures par œil, mais ça nous prend seulement que 5 à 10 minutes à cause de la technologie.
Vous avez également mentionné que vous avez été 7 mois de façon mobile, donc de courir de festival en festival, puis vous avez fermé 14 mois en raison de la pandémie. Vous avez ouvert votre propre commerce. Est-ce que vous voyez une différence là, dans l'achalandage?
Oui, absolument. Ça nous a vraiment surpris, la différence. Absolument, les festivals et les événements qu'on participait dedans, c'était des gros événements de 10 à 20 000 personnes. Quand quelqu'un passe en avant de notre boutique, c'est des « wow » et puis des « ah oui, c'est ça, on a vu ça sur social media ou c'est sur TikTok ou quelque chose comme ça ». C'est tellement unique et personnel comme pièce d'art. Ça devient d'habitude, je crois, c'est la nouvelle pièce favorite quand on voit nos yeux. C'est vraiment spécial.
Et bien voilà, c'est là-dessus que se conclut cette édition de Point de vue. Merci à nos journalistes Vincent Savard, Yasmina Dagri, Sébastien Beltran et Daniel Aucoin. Salutations à notre coordonnateur national Stéphane Bénard et aux artistes qui nous offrent si généreusement leur musique. Merci à vous d'avoir été avec nous. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Cette émission est une production du Fonds canadien de radio communautaire à Ottawa. À la semaine prochaine.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Bonjour et bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au cours de cette émission estivale, on fait un peu de tourisme en nature dans les parcs historiques de la Nouvelle-Écosse. On écoute de la musique acadienne et on extrait du pétrole vert, enfin en partie. Le groupe 1755 entre au panthéon des auteurs-compositeurs canadiens avec sa chanson culte « Le monde a bien changé ».
1755 a amené l'Acadie dans la rue, a réveillé une conscience d'identité chez des Acadiens qui ne savaient même pas qu'ils avaient une histoire particulière. Ils ne savaient pas qui appartenait à un peuple distinct. Le 1755, je pense, a contribué largement à ce réveil-là chez la population, à réveiller une fierté, à réveiller une prise de conscience de l'identité acadienne.
Les sites continentaux de Parc Canada en Nouvelle-Écosse séduisent en alliant nature, histoire et culture. Et une compagnie albertaine affirme avoir mis au point et éprouvé une nouvelle méthode d'extraction du pétrole. On fait remonter l'or noir à la surface, non pas en injectant des produits chimiques, mais grâce aux ondes.
C'est un processus où l'on transforme de l'électricité en énergie électromagnétique qui est en fait ensuite transmise en énergie thermique dans le sous-sol. Cette énergie thermique chauffe donc les huiles lourdes pour pouvoir l'extraire.
Bienvenue à Point de vue.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chétiquan, en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
J'en ai connu plusieurs, des fois changé souvent. C'était avant Paris, c'était avant ton temps. À cette heure, c'est plus pareil, je crois plus ça comme avant. Le monde a bien changé, je t'aime à tous les jours. J'apprends à vivre mieux, j'apprends à vivre mieux.
Eh bien, on met d'abord les voiles sur la Nouvelle-Écosse et on sera tout en musique en compagnie de notre journaliste Sébastien Beltran, posté à Halifax. Sébastien qui a eu la chance d'avoir à son micro l'un des musiciens du groupe 1755, un groupe originaire du Nouveau-Brunswick et dont l'une des chansons vient d'entrer, imaginée au panthéon des auteurs-compositeurs canadiens. La chanson « Le monde a bien changé », écrite à l'époque par Gérald Leblanc et composée par Pierre Robichaud, le chanteur du groupe, a été inscrite au Panthéon en mai dernier à Fredericton à l'occasion des East Coast Music Awards. Pour ce chef-d'œuvre et pour l'élan insufflé à tout un peuple, 1755 s'est donc mérité cette reconnaissance nationale. L'histoire de ce groupe culte 1755 débute en fait à Moncton en 1977. Les cinq membres du groupe ignorent alors le destin qui les attend parce que 45 ans plus tard, la ferveur et l'enthousiasme de les voir sur scène n'a pas changé. Le public est toujours au rendez-vous. Le groupe était d'ailleurs très attendu sur la scène des East Coast Music Awards. Au début de l'aventure, il y a la rage de cinq adolescents, mus par une volonté d'affirmation identitaire. Ils composent des musiques, des classiques en temps réel. Ils ont le génie des différences et de l'écoute mutuelle. Les mélodies de 1755 ont stimulé la fierté et l'identité des francophones des Maritimes à travers les paroles du poète Gérald Leblanc, considéré d'ailleurs comme le sixième membre du groupe. Les Acadiens ont trouvé un message revendicateur et rassembleur. Pierre Robichaud, chanteur du groupe, revient sur les raisons de leur succès au micro de Sébastien Beltran.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Donc cette année, 1755 fête son 45e anniversaire et vu la ferveur autour de vous, on peut dire que vous êtes en train de marquer l'histoire de la musique en Acadie. Alors pourtant, en 1977, vous débutez dans les petites salles à Moncton et vous ignorez alors le destin qui vous attend. Alors parlez-nous de ces années. Est-ce que vous sentiez que vous alliez déclencher une telle émotion chez les Acadiens?
Pas jusqu'à ce point-là, pas jusqu'à 45 ans plus tard, encore remplir les salles, encore se faire demander pour donner des spectacles. Sauf quand que ça a décollé notre affaire en 77, ça a décollé vite. On remplissait nos salles, on jouait dans des brasseries. Puis le monde, ben, y allait là pour dîner, pour avoir une place pour nous voir à 8 heures du soir. So, juste ça, dans ce temps-là, c'était très, très électrique pour le groupe. Ça nous a stimulé énormément de se garrocher là-dedans à 100 000 à l'heure. Puis, on n'aurait jamais cru que 45 ans plus tard, et même 30 ans plus tard, le monde nous téléphonait pour savoir si on voulait aller jouer.
So là, on se fait encore téléphoner 45 ans plus tard pour aller donner des spectacles. Et on se fait reconnaître aussi par nos pères. So c'est vraiment quelque chose rendu en 2022 qu'on parle encore du groupe 1755.
Exactement. Alors, j'allais y venir. 45 ans après vos débuts, vous êtes toujours aussi populaire et vous êtes devenu une référence et un exemple pour de nombreux artistes. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire et comment analysez-vous cela?
Ben, nous autres, quand on a commencé, on était le seul groupe acadien qui se produisait dans les salles populaires, c'est-à-dire des brasseries et des arénas et les affaires de même. Les autres artistes acadiens qui sont venus avant nous se produisaient dans des sous-sols d'église ou dans des shows télédiffusés de Radio-Canada. Mais l'Acadie était quand même, comment je te dirais, l'Acadie n'était pas rendue au peuple. Le peuple acadien, comme tel, n'avait pas vraiment de connecté sur le fait qu'ils étaient acadiens. Moi, j'ai trouvé une expression que je trouve qui justifie un petit peu l'effet du groupe 1755. C'est le groupe 1755 a amené l'Acadie dans la rue. Avant, l'Acadie était dans les salles paroissiales et dans les émissions de Radio-Canada. À part de ça, on n'entendait pas parler de l'Acadie du tout, du tout, du tout. À Moncton, il fallait parler anglais dans la rue si on ne voulait pas se faire menacer de se faire battre. Sur 1755, c'est même, je décris ça, 1755 a amené l'Acadie dans la rue, a réveillé une conscience d'identité chez des Acadiens qui ne savaient même pas qu'ils avaient une histoire particulière. Ils ne savaient pas qui appartenait à un peuple distinct. Puis 1755, je pense, a contribué largement à ce réveil-là chez la population, à réveiller une fierté, à réveiller une prise de conscience de l'identité acadienne.
Votre chanson « Le monde a bien changé » rentrera au panthéon de la chanson canadienne aux côtés des chansons produites par Rufus Wainwright, Buffy Sainte-Marie et bien d'autres encore. Donc, plus qu'une récompense, il s'agit d'une reconnaissance. Alors, quel sentiment ça vous inspire?
Ben, c'est, comment je te dirais, c'est très, très valorisant d'avoir une de nos chansons intronisée dans le panthéon de la chanson canadienne. C'est gars, on se trouve, comme tu dis, en compagnie des grands que nous autres on a admirés pendant toute notre carrière, pendant toute notre vie, des Neil Young, des Gordon Lightfoot, des Joni Mitchell, etc. Tu sais. Ça, je veux dire, c'est très spécial, c'est émouvant. J'ai des frissons à juste en parler parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Ça veut dire que c'est quoi que le Panthéon a décidé de nous introniser. C'est très, très, très spécial. Puis comment je te dirais, j'apprécie beaucoup énormément la reconnaissance qu'ils apportent, pas juste à Gérald Leblanc et à moi, mais à tout le groupe 1755 qui ont rendu cette chanson-là populaire.
J'en ai connu plusieurs, des fois changé, souvent c'était avant ton temps. À ce temps, c'est plus pareil, je crois plus ça comme avant. Le monde a bien changé.
Le monde a bien changé, c'est l'histoire d'un homme qui regarde ce qui l'entoure différemment depuis qu'il a rencontré l'amour. Il me semble qu'on peut faire un parallèle avec votre parcours, et vous me direz si je me trompe ou pas. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir contribué à rendre leur fierté aux Acadiens, à avoir défendu une culture, un peuple, à lui avoir donné du plaisir aussi, qui fait qu'aujourd'hui, ils tiennent autant à vous?
Je pense que c'est difficile à moi de décrire ça. Le monde me répète souvent, souvent, que c'est grâce à nous qu'ils ont découvert leur identité. Puis, je veux dire qu'ils restent accrochés à nous autres, comme tu dis, après 45 ans. Ça fait 4 générations qui grandissent sur notre musique, qui apprécient la musique et qui se reconnaissent dans notre musique. Ça veut dire que c'est quand même assez spécial, il faut l'avouer. C'est assez, assez extraordinaire. Puis, je veux dire, c'est très valorisant.
Est-ce qu'on a toujours le track après 45 ans?
Oui, puis non. Rien qui ressemblait au track qu'on avait au début. On a appris à apprivoiser la scène au bout de 45 ans. Non, il y a toujours un petit track Au début, le trac était épouvantable. Là. De la misère, des fois, à passer à travers. Mais aujourd'hui, non, c'est un beau petit trac. Ça fait que ça te met sur tes gardes puis ça te prépare à affronter la soirée.
Comment voyez-vous cette jeune génération? Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer comme vous le faisiez? Est-ce qu'ils ont les mêmes difficultés que vous aviez pu avoir?
Là, je ne sais pas. Aujourd'hui, en Acadie, il y a une industrie de la musique. Nous autres, quand on a commencé, il n'y en avait pas. On l'a plus ou moins créé. Plus ou moins. Aujourd'hui, il y a des gérants, il y a des salles de spectacle, il y a des agents, il y a des graphistes, il y a tout pour entourer les artistes aujourd'hui que nous autres, on n'avait rien de ça au début. Il fallait tout faire par nous autres-mêmes, défricher le territoire, défricher même à la grandeur des provinces atlantiques, les endroits où aller jouer. Aujourd'hui, ils n'ont pas cette difficulté-là. Les artistes, ceux qui finissent par se ramasser avec un gérant ou une gérante qui a de l'allure, ben, ils vont travailler, ils vont faire des spectacles, ils vont donner des spectacles, puis ils vont avoir quelqu'un qui va leur négocier un cachet convenable, etc. C'est, tout ça, dans notre temps, ça n'existait pas.
C'est là où on mesure le chemin parcouru quand on vous écoute et qu'on voit comment vous avez transformé un petit peu la culture acadienne et la musique acadienne.
Ben, on a donné son envol, je pense. Comme je te dis, après nous autres, il y en est venu plusieurs. Puis dans les 20 dernières années, il y en a beaucoup d'artistes qui ont sorti de l'Acadie. Ça, à tous les jours, à toutes les années, il y en a des nouveaux. Puis c'est bon. Il y a des très bons artistes qui sont en Acadie aujourd'hui.
Il y a quelques fans absolus et radicaux de 1755 à la station. Donc, je serai leur porte-voix pour ma dernière question. Alors, quels sont vos projets? Et y a-t-il un espoir de vous voir un jour avec de nouvelles créations?
Je ne sais pas. Pour des nouvelles créations, entre toi et moi, nos chansons ont traversé des décennies, ont traversé des époques, ont traversé des générations. Puis quand le monde vient nous voir, ils veulent entendre ces chansons-là. So, si on se met à faire un paquet de nouvelles chansons, ben on ne jouera plus les vieilles. Nous autres, on s'est dit, autant que le monde va venir nous voir pour écouter nos chansons. Pour le moment, ça nous satisfait très bien. Merci.
Merci, Pierre, d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi.
Il n'y a pas longtemps qu'on s'est rencontrés. T'en souviens-tu de la première soirée? On passait le temps à se regarder. Dans ce temps-là, on ne savait pas que sera, mais que ça soit entre toi puis moi. Les matins, le déjeuner, au lit, je l'emporterai, on restera couché toute la journée, à s'aimer.
Allez, on bouge, on va vers l'ouest rejoindre notre journaliste Vincent Savard qui nous rapporte qu'une compagnie albertaine est en train de tester de nouvelles méthodes d'extraction de pétrole. La compagnie Accelware développe une nouvelle façon d'extraire le pétrole sans émettre de gaz à effet de serre, dit-elle. La stratégie consiste à utiliser des ondes pour extraire le pétrole. L'idée n'est, semble-t-il, pas nouvelle et daterait même, en fait, des années 40. Mais la technologie n'était, à cette époque, évidemment pas au point, on s'en doute. La compagnie Accelware affirme même avoir mis ses équipements à l'essai avec succès, même si elle avoue, du même coup, être toujours en phase de développement. Utiliser des ondes comporterait à l'évidence de nombreux avantages pour les grands exploitants qui peuvent, au dire de la compagnie, éviter d'utiliser des vapeurs d'eau et des produits chimiques pour faire remonter le pétrole à la surface. Le procédé serait beaucoup plus écologique, dit-on. Éric Trouillot est directeur du développement de la compagnie Accelware. Il est au micro de Vincent Savard.
C'est un processus où l'on transforme de l'électricité en énergie électromagnétique qui est en fait ensuite transmise en énergie thermique dans le sous-sol. Et cette énergie thermique chauffe donc les huiles lourdes pour pouvoir l'extraire.
Ce procédé est-il aussi efficace que l'extraction classique?
C'est une extraction en fait beaucoup plus efficace parce que au lieu de transformer l'eau qu'on peut avoir en surface en vapeur, ensuite envoyée en profondeur pour diminuer la viscosité du pétrole. En fait, le processus utilise des ondes micro-ondes, donc comme un four à micro-ondes. Ces micro-ondes sont donc envoyées en profondeur. Ils excitent les molécules d'eau et ces molécules d'eau sont ensuite transformées en vapeur et cette vapeur donc réchauffe le sous-sol pour extraire le pétrole. Mais alors comme on n'envoie pas d'eau, on utilise seulement l'eau qu'il y a déjà dans le sous-sol. Donc c'est beaucoup plus efficace point de vue transformation énergétique. Et puis en surface aussi, c'est beaucoup plus efficace à la production, à l'exploitation du pétrole parce que on se sert d'énergie électrique au lieu de transformer du gaz en vapeur. Voilà, c'est juste avec de l'électricité. Donc en fait, l'électricité, si l'électricité vient de ressources renouvelables comme le solaire, l'éolien, c'est très écologique. Ça peut être très écologique comme méthode d'extraction.
Est-ce que ces ondes-là peuvent être dangereuses à la santé des travailleurs?
Mais ce sont à peu près les mêmes ondes qu'on peut avoir dans un four à micro-ondes. Oui, si c'était en surface, il pourrait y avoir des problèmes potentiels. Mais comme c'est en très grande profondeur, à 500 mètres, 800 mètres de profondeur, et puis que l'on a plein de systèmes de sécurité en surface pour arrêter toute propagation d'ondes échappatoires au niveau du puits, c'est relativement simple comme processus.
Monsieur Éric Trouillot, ça fait combien de temps que vous avez trouvé cette méthode?
Cette méthode, ce n'est pas nous qui l'avons trouvée. Hein. Ça existe depuis les années 40, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les premiers essais. Mais ce n'était pas au niveau de l'extraction du pétrole à ce moment-là. Mais dans les années 50, je crois que c'était aux États-Unis, en Californie, ils ont essayé d'utiliser cette technologie, mais... c'était beaucoup trop complexe. D'autres compagnies pétrolières depuis ont essayé, mais ils n'ont jamais réussi à transmettre cette énergie dans le sous-sol de manière efficace, surtout au niveau de la quantité d'énergie qu'on a à déployer ensuite dans le sous-sol. C'est vraiment une autre échelle.
Vous dites que l'idée est arrivée en 1940. Maintenant, aujourd'hui, on commence à trouver des façons à développer ça, puis on extrait du pétrole. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que ça devienne permanent?
Là, on est en plein milieu d'essai. Donc, on a un site pilote où on envoie déjà donc, les ondes, ces ondes à fréquence micro-ondes dans le sous-sol pour essayer d'extraire le pétrole. Alors, on a commencé à très petite échelle dans les 5 à 10 dernières années en Alberta. Et puis là, nous sommes donc avec ce pilote à Marwane, donc juste au nord de Lloydminster, on fait donc ce pilote, on essaye donc la technologie dans ce pilote, c'est à 500 mètres de profondeur sur 800 mètres de long, nous faisons les essais en ce moment même, et on a même commencé à produire du pétrole grâce à la technologie. Donc on commence déjà à avoir des résultats, mais ça va durer plusieurs mois avant qu'on ait des résultats définitifs.
Est-ce que la compagnie Accelaware est la seule compagnie à travailler sur ce projet-là au Canada?
Au Canada, je pense oui. Il doit y avoir d'autres compagnies. Il y en a une autre aux États-Unis, je pense, qui ont fait des essais, mais ils n'ont pas, d'après nos renseignements, n'ont toujours pas réussi à transformer autant d'énergie en sous-sol, en micro-ondes, en électromagnétique. C'est très, très complexe comme technologie. Et jusqu'à présent, nous sommes les seuls vraiment à avoir réussi à transformer autant d'énergie en sous-sol.
Vous avez été aidé par le gouvernement du Canada en subvention. C'est quoi qui a été la cause qui a convaincu le fédéral d'investir dans ce projet-là?
Tout le monde dans le monde entier se penche sur les nouvelles technologies pour réduire l'effet climatique que l'on vit tous aujourd'hui. Donc, le fait que notre technologie aide vraiment à réduire la consommation d'énergie et à éventuellement pouvoir produire du pétrole, extraire du pétrole avec presque 0% de GHG, c'est quand même immense comme, comme évolution technologique. Et surtout, on ne se sert pas d'eau du tout extérieure, alors que dans les villes lourdes, c'est un des gros problèmes, c'est l'utilisation d'eau qui n'est pas du tout écologique. Et comme tout le monde est penché sur ce genre de problème, ben le gouvernement était prêt à nous aider.
On commence de plus en plus à parler de votre projet. Est-ce que les autres entreprises pétrolières commencent à aborder votre compagnie pour utiliser cette fonction d'extraire le pétrole avec des ondes?
Oui, oui, on a beaucoup d'intérêt de compagnies diverses en Alberta et de par le monde, en Californie, au Moyen-Orient. Tout le monde est intéressé, tout le monde regarde ça de près. Pour notre projet qui est à Marlowe, donc en Alberta, là, le projet pilote qui est en cours, nous avons déjà 3 compagnies pétrolières qui sont impliquées dedans aussi, qui ont aligné des fonds de leur côté pour aider à subventionner le pilote qui est en cours en ce moment.
Merci beaucoup, M. Éric Trouillot, directeur du développement de la compagnie Accelaware.
Ben, je vous en prie.
Suivez-nous sur Twitter à CanadaLJI, @CanadaLJI.
L'été est à nos portes et plusieurs ont déjà mis la main sur leur site de camping ou de caravaning à travers le pays. Et ce, en dépit des coûts prohibitifs de l'essence à la pompe, ils sont plusieurs à avoir réservé depuis des lustres leur place en nature, et notamment dans les différents sites de Parcs Canada en Nouvelle-Écosse continentale, lesquels ont officiellement lancé leur saison touristique estivale. Certains misent sur une formule histoire et culture en pleine nature, et parmi eux, ceux de la citadelle d'Halifax, de l'île Georges, du parc national et du lieu historique national Kejimkujik, de Port-Royal et du fort Anne. Notre journaliste à Chéticamp, Daniel Aucoin, se paie du bon temps à rêvasser d'espaces verts et d'horizons. Il nous donne un avant-goût des trésors naturels et historiques que renferme la Nouvelle-Écosse, en compagnie de Marie-Lise Thériault-Como, responsable de l'expérience visiteur au parc national du lieu historique national Kejimkujik. Daniel Aucoin.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, les lieux de Parc Canada de la Nouvelle-Écosse continentale qui lancent officiellement leur saison touristique estivale 2022, comment important que sont les sites de Parc Canada comme produits touristiques pour la Nouvelle-Écosse continentale?
Je dirais qu'ils sont super importants. Ça vaut la peine de venir les visiter maintenant qu'on peut visiter et voyager dans notre province un peu plus librement. Je pense que c'est une meilleure façon de découvrir notre nature et de se rapprocher de notre histoire.
On sait que les 2 dernières années, ça a été assez difficile pour l'industrie touristique en Nouvelle-Écosse. Est-ce qu'on est confiant à Parc Canada que les visiteurs seront de retour cette saison?
Selon moi, on va voir beaucoup de monde dans nos parcs cet été. Les gens ont besoin de bouger, ils ont besoin de sortir de la maison. Et je pense que de se promener dans des parcs nationaux, c'est la meilleure chose pour la santé. Et surtout de prendre le temps de justement s'éduquer de qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire en Nouvelle-Écosse. Et c'est certain que Parc Canada va mettre en place toutes les mesures pour assurer que les visites soient faites de façon sécuritaire et qu'il n'y a pas de propagation de la COVID-19.
Parle-nous un peu de la carte d'entrée découverte de Parc Canada.
Oui, la carte découverte Parc Canada, c'est une super carte qui te permet de visiter tous les parcs qui sont au Canada. Et c'est une carte qui est bonne pour un an, justement, qui permet de visiter les sites historiques comme les parcs nationaux, comme les réserves. Et ça nous permet de rentrer plus facilement, pas besoin de faire une ligne d'attente quand c'est un vendredi après-midi qu'il y a une longue ligne. Ça nous permet de passer plus rapidement et justement avoir accès à tellement de l'histoire du Canada.
C'est quoi certains exemples de différentes expériences enrichissantes que l'agence Parc Canada propose aux visiteurs en Nouvelle-Écosse continentale?
Oh, cet été, on offre beaucoup de choses. C'est certain, si vous passez par Halifax, il y a une nouvelle exposition qui parle justement de l'histoire de comment Halifax a été fondée et comment elle est rendue maintenant une belle mosaïque multiculturelle. On passe par l'histoire des Mâts, les pionniers britanniques, les Acadiens et plusieurs différentes cultures. Je pense que c'est une bonne façon de justement se renseigner plus sur notre histoire à Halifax. Ensuite, on peut faire un arrêt à l'île George, qui est ouverte toutes les fins de semaine, en débutant par le 11 juin jusqu'au 9 octobre. Ça nous donne une nouvelle vue panoramique de Halifax et justement d'en savoir plus sur qu'est-ce qui s'est passé sur cette île-là et l'impact qu'il y a eu sur les Acadiens. Si vous passez un peu plus loin, à 2 heures, il y a le parc Kedjimkujik où vaut la peine de venir voir notre nouveau sentier qui s'appelle Ugmeg, qui veut dire sinueux en Mi'kmaq, et ça longe la rivière Mersey et ça nous amène à un super pont qui passe par-dessus des chutes, fait que ça vaut vraiment le paysage. Et si on veut continuer après pour se rendre à Port-Royal et à Fortane, il y a des nouvelles activités guidées qui nous amènent plus sur l'histoire des Acadiens. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos parcs ici continentaux.
Comment les gens peuvent se préparer à l'avance avant de partir pour visiter les lieux de Parc Canada?
Oui, donc cette année, c'est vraiment important que les gens planifient à l'avance pour leur visite. Dans la majorité des temps, il faut faire des réservations à l'avance. Mais si les gens vont sur notre site web, toute l'information est là. On peut se renseigner sur justement comment faire des réservations, quels programmes sont disponibles. Vraiment, je pense que ça vaut la peine juste de faire un tour sur nos sites web et nos médias sociaux.
Est-ce qu'on retrouve des bornes de recharge pour véhicules électriques à la disposition des visiteurs?
Surtout à la citadelle d'Halifax, au Parc national Kedjimkujik et au lieu historique de Fortane.
Est-ce que la saison débute à différentes dates pour les différents lieux de Parc Canada de la Nouvelle-Écosse continentale?
Oui, donc on a différentes dates de début. Pour la citadelle, ça a débuté le 7 mai dernier. Pour l'île George, ça a débuté le 11 juin, mais pour la majorité, le reste, comme Kedji, Port-Royal, Fort-Anne et Grand Prix, on commence le 20 mai.
Alors, on va vous souhaiter une excellente saison touristique estivale 2022. Marie-Lise Thériault-Comeau, ambassadrice, l'expérience des visiteurs, Parc national et lieu historique national Kedjimkujik. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous et bonne chance.
Bien, merci beaucoup. Alors, on se voit cet été.
Salut.
Salut.
Eh bien voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On vous invite à consulter notre site web où vous pouvez lire et écouter, vous le savez, tous les reportages produits par des dizaines de journalistes postés à travers le Canada et qui travaillent en deux langues et deux langues et demie peut-être, français, anglais et un peu d'espagnol. Rendez-vous sur canada-info.ca, canada-info.ca. On vous présente à cette émission, vous ne savez qu'une infime partie de ce qui est produit chaque semaine. Ne ratez pas ce rendez-vous de l'information locale. L'information locale, c'est notre rayon. Retrouvez-nous sur Twitter @CanadaLJI, CanadaLJI. Écoutez toutes nos émissions sur vos plateformes préférées. On remercie nos journalistes Vincent Savard, Sébastien Beltran, Daniel Aucoin et notre coordonnateur national Stéphane Bénard. Chapeau aux artistes qui, à chaque émission, nous offrent leur musique. On vous rappelle que Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la Baleine, en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
398-4616. Get in the mix, stir the batter. Constant chatter on CKUT 90.3 FM. Did I miss something?